Et nous débutons avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Comment se placer sur l'échiquier géopolitique face aux États-Unis de Donald Trump? Pékin choisit de faire un pas vers l'administration américaine et lève ce matin une mesure anti-dumping contre le sorgho américain. Un geste pour éviter des sanctions et des taxes commerciales sur les importations chinoises.
De son côté, l'Union européenne fourbit ses armes pour éviter les sanctions américaines en cas de commerce avec l'Iran. Les 28 ont expliqué leur contre-attaque législative. Explication dans un instant.
À la une également, deux nouvelles interpellations et une mise en examen après l'attentat au couteau de samedi soir à Paris. À la dixième séquence de la grève en pointillé à la SNCF, le réseau routier est sur une mauvaise pente. Il a souffert des intempéries et des baisses de crédit. Les professionnels pressent le gouvernement d'annoncer des mesures financières à la hauteur. C'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, la question du jour, Venezuela, l'élection présidentielle permettra-t-elle de sortir de la crise politique? On posera la question à Paula Vasquez, chargée de recherche au CNRS.
Ils tentent d'éviter une guerre commerciale qui pourrait leur coûter très cher. Les États-Unis et la Chine ont repris cette nuit leurs délicates négociations sur le déséquilibre commercial entre les deux puissances. 375 milliards de dollars de déficit commercial l'an dernier des États-Unis avec la Chine et à J-4 de potentielles sanctions américaines sur les marchandises en provenance du géant asiatique. Après également une première série de pourparlers à Pékin, il y a deux semaines cette fois, les discussions se tiennent à Washington. Washington où le président chinois Xi Jinping a envoyé l'un de ses vice-premiers ministres en charge de la politique économique. Pékin vient de faire un premier pas vers Washington pour mieux préserver ensuite les intérêts chinois, Dominique André.
Le gouvernement chinois lève une mesure anti-dumping contre les importations de sorgho, très utilisée par les éleveurs de porc en Chine. La Chine est le premier importateur de sorgho américain. Le mois dernier, le ministère du Commerce à Pékin avait menacé de mettre en place de nouveaux droits de douane sur cette céréale, produite essentiellement dans les États républicains, base du soutien de Donald Trump. Ce geste chinois intervient à un moment crucial dans les délicates négociations. Le compte à rebours est enclenché. Les sanctions commerciales prévues par les États-Unis contre Pékin pourraient intervenir dès mardi prochain si aucun compromis n'est trouvé. Donald Trump a menacé la Chine de nouvelles taxes sur 50 milliards de dollars de marchandises. La Maison-Blanche exige une réduction de son déficit commercial en Chine de 200 milliards de dollars. Liu Re, conseiller et proche de Xi Jinping, a rencontré hier Donald Trump à la Maison-Blanche. Les pourparlers commerciaux se poursuivront aujourd'hui. La Chine fera-t-elle d'autres concessions? La presse américaine l'affirme. En toile de fond des discussions se trouve le dossier de l'industrie chinoise. Les difficultés de ZTE, géant chinois des télécoms, interdit d'importer des composants américains depuis le mois dernier, montrent que le plan industriel de Xi Jinping, baptisé Made in China 2025, est dépendant des technologies étrangères.
Et sur l'échiquier géopolitique mondial, la Chine avance ses pions pour continuer de commercer avec l'Iran, malgré la volonté de Donald Trump d'isoler économiquement Téhéran avec le rétablissement de sanctions économiques dès cet été pour les entreprises américaines et étrangères en vertu de lois extraterritoriales. Le géant énergétique chinois CNPC est prêt à remplacer le français Total pour développer un vaste champ gazier iranien dans un contrat équivalent à près de 5 milliards de dollars. La Chine, assoiffée d'hydrocarbures, premier partenaire commercial de l'Iran, semble vouloir passer outre les sanctions commerciales américaines, tout comme la Russie. Les Européens, eux, voient un marché pesant des milliards leur échapper. Ils se mobilisent donc pour tenter de contourner les sanctions américaines et poursuivre ainsi leurs relations économiques avec l'Iran. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a expliqué hier soir la stratégie des 28. C'était à l'issue d'un sommet des dirigeants européens à Sofia, en Bulgarie.
Nous avons pour devoir de protéger nos entreprises européennes et notamment les petites et moyennes entreprises. C'est la raison pour laquelle nous lançons le processus de recours à la loi de blocage qui vise à neutraliser les effets extraterritoriaux des sanctions dans l'Union européenne.
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, hier soir en Bulgarie, propos recueillis par notre envoyé spécial, Quentin Dickinson. Jean-Claude Juncker, qui a donc annoncé hier la réactivation de la loi de blocage de 1996, conçue pour contrecarrer des sanctions américaines, portant déjà à l'époque sur des échanges avec l'Iran, mais aussi avec Cuba et la Libye. Un dispositif jamais mis en œuvre. Le simple fait de brandir cette arme législative avait suffi à faire reculer les États-Unis d'alors sous Bill Clinton. Les précisions précisions d'Éric Biegala.
La loi de blocage de 1996 visait expressément à interdire aux entreprises, aux particuliers et aux résidents de l'Union européenne de se soumettre aux injonctions américaines issues de deux lois. Celle dite sur les libertés cubaines et la solidarité démocratique avec Cuba, qui visait à interdire tout commerce avec l'île, ainsi que celle sur les sanctions contre l'Iran et la Libye, qui elle sanctionnait tout investissement de plus de 40 millions de dollars dans ces deux pays. La loi de blocage européenne stipulait que toute personne avait le droit de recouvrer les indemnités dues pour tout dommage qui lui a été causé du fait de l'application des lois américaines. Elle précisait que ce recouvrement pourrait même prendre la forme de la saisie et de la vente des avoirs détenus dans la communauté européenne par les Américains, y compris les parts et actions détenues dans des sociétés basées en Europe. Bien sûr, si l'Union entend réactiver ce dispositif, il faudra le toiletter, l'amender, y inclure tout le train des différents dispositifs de sanctions américaines liés à l'Iran que l'administration Trump est en train de ressusciter, mais le principe devrait rester le même. Reste à savoir si ce sera suffisant pour rassurer les entreprises européennes et les dissuader de se plier aux injonctions américaines. Total, par exemple, a annoncé vouloir renoncer à ses investissements iraniens de crainte de tomber sous le coup des sanctions américaines. Et celle-ci pourrait prendre la forme d'une perte de financement par les banques américaines, alors que ces dernières sont impliquées dans plus de 90% des opérations du groupe pétrolier, ou même d'une perte de ses actionnaires américains qui représentent plus d'un tiers de son actionnariat. Il n'est pas sûr du tout que la perspective assez hypothétique d'un recouvrement de ce type de perte grâce à une loi de blocage européenne puisse convaincre le pétrolier de ne pas se désengager d'Iran. Pour lui, le jeu n'en vaut probablement pas la chandelle.
Et un nouveau caillou dans la chaussure des Européens, avec des eurosceptiques, nous le disions déjà hier, aux portes du pouvoir à Rome. La Ligue, partie d'extrême droite allié de Marine Le Pen au Parlement européen, d'y mettre la main à un programme commun avec le mouvement 5 étoiles. Les populistes ont assuré hier soir qu'ils soumettraient dès lundi au président de la République, Sergio Mattarella, le programme de ce qui serait le premier gouvernement anti-système en Italie. Les deux partis prévoient de réduire les impôts tout en amplifiant les dépenses sociales et de s'accorder la possibilité de réviser les traités européens. De quoi compliquer les relations avec Bruxelles. L'analyse du politologue Giovanni Orsina, professeur en sciences politiques à l'Université Louis de Rome.
La Ligue doit faire quelque chose pour convaincre ses électeurs que ça est la bonne chose. Finalement, je pense que le président du Conseil va être du mouvement 5 étoiles. Et la Ligue a dû demander quelque chose en revanche. Et la chose, c'était une orientation très eurosceptique. Sûrement, ça va être un gouvernement qui va chercher une façon de montrer aux Italiens que l'Italie va négocier très durement avec l'Europe et va demander des choses, plus d'autonomie, plus de possibilités, plus la dépense publique, etc. L'Italie peut-être va être plus du côté de l'Autriche, du groupe de Visegrad. Ça est, on peut dire, la ligne opposée à celle de Macron.
Le politologue Giovanni Orsina au micro de Mathilde Imberti, notre correspondante à Rome. Hier soir, interrogé justement sur la situation politique en Italie avec des partis pour le moins eurosceptiques aux portes du pouvoir, Emmanuel Macron a rappelé qu'il était important de respecter le suffrage universel, mais il a salué le rôle du président italien Sergio Mattarella qui a indiqué que le gouvernement italien devait travailler avec l'Europe.
7h08 sur France Culture, c'est la suite des matins et du journal de Catherine Dutu. Deux jeunes femmes ont été interpellées en région parisienne dans le cadre de l'enquête sur l'attaque djihadiste au couteau qui a fait un mort samedi soir à Paris.
Le procureur de Paris, François Molins, a annoncé effectivement hier soir l'interpellation de ces deux femmes proches du terroriste Ramzat Azimov, abattu par la police samedi dernier. L'une de ces jeunes femmes est une francilienne radicalisée de 19 ans qui s'était mariée religieusement avec Abdul Hakim Anayef. Cet homme, il a été interpellé dimanche dernier à Strasbourg. C'est un ami du terroriste Ramzat Azimov. Abdul Hakim Anayef a été mis en examen hier soir pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. On y revient dans le journal de 7h30. Le début aujourd'hui du 10e épisode de la grève en pointillé à la SNCF. C'est aujourd'hui également que le tribunal de grande instance de Bobigny va rendre sa décision sur le paiement ou non des jours de repos des cheminots entre deux jours de grève. Manifestation hier à Lyon en soutien à Moussa Camara, ce jeune Guinéen menacé d'expulsion et en détention provisoire depuis le 4 mai dernier dans une prison de la métropole lyonnaise. Moussa refuse de repartir dans son pays d'origine car il se dit menacé dans son pays à cause de son son homosexualité. Une version contestée par la préfecture, Antoine Maret.
En Guinée, l'homosexualité est interdite par le code pénal. Deux hommes ou deux femmes qui ont une relation sexuelle risquent en théorie la prison. C'est pourquoi Moussa Camara ne veut pas retourner dans son pays. Ce Guinéen de 28 ans a refusé d'embarquer en vue de son expulsion. Il a donc été placé au centre de rétention administrative de Nîmes. Moussa Camara affirme qu'il est homosexuel, que son compagnon a été lynché à mort par sa famille en Guinée, pays qu'il a fui pour échapper aux persécutions. Une version qui n'a pas ému l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a refusé sa demande d'asile. L'OFPRA estime que les craintes de persécution sont infondées. Comment expliquer une telle position? Henri Labaye, les professeurs de droit à l'université de Pau.
Il y a deux choses. Soit effectivement il dit je suis homosexuel pour ne pas être renvoyé, c'est une possibilité, mais il y a peut-être aussi une autre possibilité qui est de dire ben voilà, il est homosexuel, mais en réalité, dans la ville où il habite ou dans la région où il habite, ben, les gens ne sont pas bornés au point de vouloir passer à tabac et massacrer tous les gens qui n'ont pas les mêmes pratiques sexuelles qu'eux. Donc il y a aussi la réalité de la menace. Il y a à la fois l'homosexualité qui peut être mise ou pas en doute, et la menace qui peut être mise ou pas en doute. Et de ce point de vue, apparemment, l'OFPRA et la CNDA, dans son premier examen de l'affaire, ont manifestement des doutes. Oui, c'est très clair. Ils ont dit non, il n'y a pas de risque.
La Cour nationale du droit d'asile peut encore réexaminer le cas de Moussa Camara. En cas de nouveau refus d'asile, il restera un dernier recours au jeune homme, saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
Les Burundais étaient appelés hier à se prononcer pour ou contre la révision de la Constitution, une réforme destinée à renforcer le pouvoir de Pierre Nkurunziza. L'issue du vote est quasiment acquise. Le président burundais pourrait ainsi rester en fonction jusqu'en 2034. On y revient dans le journal de 7h30.